Donc cette demande m'a été adressée, la demande de cet atelier, d'animer cet atelier, m'a été adressée en raison d'une thèse en cours en sciences de l'éducation, qui est en résonance avec les trois termes que rapproche l'intitulé de cet atelier, le fait religieux, les familles et l'école. Donc ma recherche doctorale porte sur les répercussions des évolutions de l'islam en France dans l'école et la question éducative au cours de la période 1980 à nos jours, qui voit se développer ce que l'on nomme des revendications identitaires et religieuses. Je m'appuierai aussi sur une recherche, sur la recherche que j'ai faite dans le cadre de mon master recherche, qui portait sur les relations école et famille dans un collège de Montpellier, où les élèves de familles musulmanes étaient assez nombreux. Donc, pour dire rapidement, pour vous expliquer rapidement cette recherche, c'était une recherche. C'est une commande. Donc, c'est une recherche qui porte sur une classe artistique qui partait de la sixième à la troisième. Chaque année, il y avait une discipline artistique différente. Et donc, la question qu'on m'avait, la question qu'on m'avait posée dans le cadre de cette commande, est-ce qu'il y avait besoin d'une médiation pour faire adhérer les parents à ce dispositif qui est assez exceptionnel. Donc, pour dire rapidement, c'est un collège populaire, quartier de la Mosson à Montpellier, c'est le collège des Escoliers. Et donc, il était nécessaire, selon les commanditaires de la recherche, de faire adhérer les parents à ce dispositif pour qu'il puisse fonctionner. Et enfin, donc, je présenterai quelques résultats de travaux de recherche sur ce sujet de l'atelier. Donc, le titre de l'atelier, le fait religieux, les familles et l'école, fait donc interférer la question de la relation école-famille avec la problématique du fait religieux. Et en propos préliminaire, je dois préciser que le fait religieux est une question relativement minime dans la problématique de la relation école et famille. Et bien d'autres sujets dominent cette relation. Et je dois ajouter aussi que les travaux de recherche sur la relation école-famille, le fait religieux, sont assez rares. Donc la première remarque que je veux faire, et qui ne cesse de s'imposer depuis que je travaille sur cette question de l'islam à l'école, porte sur la complexité de cette problématique, et ce sera un des fils conducteurs de mon intervention. Donc en préambule, il me semble important de revenir sur deux points d'ancrage historique importants. C'est pour cela que j'ai fait partir ma recherche à partir des années 80. Alors le premier point, c'est la loi sur le regroupement familial en 75, qui installe un processus singulier qui se met en place au tournant des années 70-80. C'est le processus de sédentarisation des familles d'origine maghrébine. Et c'est en relation avec la prise de conscience chez beaucoup d'immigrés originaires du Maghreb qu'ils sont engagés dans un inéluctable processus de sédentarisation en France que se développe une demande d'islam. Alors je peux m'arrêter sur cette expression, une demande d'islam. En fait, c'est une expression que Gilles Kepel, dans les banlieues de l'islam, a utilisé. Donc, on pourrait aussi se demander qu'est-ce que c'est réellement que cette demande d'islam. On pourrait dire aussi que c'est plutôt que le fait de cette sédentarisation a entraîné pour les musulmans une installation de la religion, dans la religion et dans la culture musulmane. Peut-être ce serait peut-être plus précis que la demande d'islam. Donc il faut comprendre que cette demande d'islam, je reprends quand même, expression d'une différence religieuse et culturelle, prend place dans un processus d'intégration. Donc l'autre événement qui me semble important, l'autre événement historique, c'est la demande d'égalité politique, signe d'intégration, qui a trouvé une forme exemplaire dans la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983, marche que la presse a renommée « Marche des beurs », et dont on a fêté les 30 ans en 2013. Et cet anniversaire a été extrêmement médiatisé par des reportages, des colloques, des fictions aussi. C'est dire l'importance symbolique de cet événement. Cette marche silencieuse est partie du quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la région lyonnaise. Donc, c'était une protestation contre les crimes racistes et discrimination. Donc, que demandaient ces jeunes qu'on a baptisés les jeunes de seconde génération? Ils demandaient à être considérés comme des citoyens français à part entière et l'égalité des droits et des chances. Fait qu'il faut souligner, la question religieuse était quasiment absente du discours des marcheurs. Je pense que c'est extrêmement important à souligner. Selon l'analyse du sociologue Abdelali Ajat, dans son ouvrage La marche pour l'égalité contre le racisme, qui a été publié en 2013, donc, selon lui, au lendemain de la marche, les jeunes issus de l'immigration vont faire l'expérience d'un double isolement social et politique, au point que nombre d'aspirations perdurent. Donc l'égalité de traitement devant la police et la justice, le droit au travail et au logement. Donc le creusement des inégalités comme l'incapacité de la société à en remettre en question ces logiques de dénomination montre, donc je cite encore monsieur Ajat, que l'appel de la marche n'a pas été entendu. Mais pour autant, les années 80 vont marquer aussi l'éclosion d'un formidable foisonnement de la culture beurre et de la socialisation politique de milliers d'enfants d'immigrés. Donc pour terminer ce bref préambule, je crois important de souligner que les deux points que je viens de vous présenter, le lien entre sédentarisation et islam et la demande d'égalité et de citoyenneté, sont tous les deux des processus d'intégration et qu'ils se traduisent l'un et l'autre par des demandes de reconnaissance politique, religieuse. Alors le parti pris que j'ai choisi pour animer cet atelier est de vous présenter sept points saillants importants dans l'état de ma recherche, donc en relation avec des données recueillies dans mon enquête en cours. Donc ma méthode de recherche rapidement est basée sur des entretiens compréhensifs auprès de familles musulmanes qui ont des enfants au collège. Et là, je travaille actuellement sur le terrain des Minguettes, de Vénissieux. Donc les entretiens portent sur la scolarité de leurs enfants, sur leur rapport à l'institution scolaire, sur leur propre scolarité et sur leur rapport à l'islam et leurs pratiques religieuses. Donc, ces sept points que je vais soumettre à votre réflexion individuelle et collective. Alors, le premier point, un biais à éviter. Donc, la question de l'islam et par voie de conséquence celle de l'islam dans l'école, sous la pression des événements et des médias, est abordée selon deux principales approches. La première consiste en une montée au général, donc la géopolitique, les crises du Moyen-Orient et ses répercussions, les courants de l'islam, etc. C'est ce qu'on peut nommer une réduction par le haut. La question de l'islam à l'école sera indexée sur des événements internationaux. La seconde procède à une réduction par le bas, une psychologisation, voire une psychiatrisation, une réduction des parcours individuels à des déterminismes sociologiques. Ma démarche essaie d'éviter cette double réduction. Et mes premiers résultats montrent que du côté de l'école, la question semble avoir une dimension plus sociale. Le deuxième point, l'islam n'est pas un objet monolithique. Il y a une pluralité des courants de l'islam en France et une diversité des pratiques. La population musulmane n'est pas une population homogène, même sur le plan religieux et culturel. Et nombreux sont les habitants qui sont de culture musulmane qui ne sont pas pratiquants. Comme le précise Jocelyne Césari, qui est chercheure au CNRS, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, dans son article « L'islam, l'ultime recours » dans la revue Plurielle, publiée en 2007, il y a le risque d'un effet de totalisation par l'utilisation du terme « islam » dans les médias, qui rend difficile la prise en compte des libertés et des accommodements que tout musulman exerce par rapport à la loi révélée, par rapport au livre, à l'instar de n'importe quel autre croyant. Alors, le troisième point, c'est le rapport des familles musulmanes avec l'école. On pourrait définir quatre grands groupes, même si dans chaque groupe il y a des nuances. Alors le premier groupe, les familles qui confient massivement leurs enfants à l'école publique, le groupe majoritaire. Dans une enquête, dans l'enquête dont je vous ai parlé, que j'ai faite à Montpellier, j'ai été frappée par la délégation de confiance au collège. Elle reste très forte. Bien sûr, là je parle des familles d'origine populaire. Donc si vous demandez aux parents ce qu'ils pensent de tel ou tel dispositif pédagogique, ils vont répondre que c'est bien, que puisque c'est l'école qui l'a décidé, les enseignants, c'est bien. On est encore sur cette idée que la décision de l'école est une bonne décision. Mais c'est une source aussi potentielle de malentendus. Les enseignants peuvent le recevoir comme un désintérêt et une démission. Donc, pour le deuxième groupe, donc, on voit se développer depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas une chose nouvelle, le recours à l'enseignement privé. On constate aujourd'hui qu'un nombre croissant de familles musulmanes choisit l'école privée, y compris de confession catholique, pour différents motifs, qui ne diffèrent guère de ceux de la population française en général. La recherche d'un encadrement moral, selon eux meilleur, la croyance en une pédagogie, un enseignement plus efficace, la stratégie de détournement de la carte scolaire dans une perspective d'ascension sociale, le recours à l'enseignement privé comme remédiation quand leurs enfants sont en difficulté. Donc le troisième groupe, celui-ci plus minoritaire, c'est un groupe de parents musulmans qui accorde une place prioritaire à la religion et qui choisit l'enseignement confessionnel, donc les écoles musulmanes. Un processus aussi qui existe depuis toujours dans les autres religions. Le catholicisme, le judaïsme. Et on voit émerger, là c'est assez récent, un nouveau groupe qui choisit la déscolarisation de l'enfant par le biais de l'enseignement à distance ou l'enseignement par la famille. Donc c'est un phénomène assez récent. Et les motivations sont religieuses, idéologiques et même on pourrait dire consuméristes. Alors là... Pour ce groupe-là, je me suis amusée un petit peu à regarder les sites internet, les propositions. Et c'est assez étonnant. On trouve donc sur ces sites donc le conseil de mettre son enfant, donc de faire l'école à son enfant, donc la déscolarisation. Mais aussi, ce qui est assez étonnant, c'est que ces sites font aussi la promotion de la pédagogie nouvelle. C'est un mélange assez... par exemple, la pédagogie Montessori. Donc c'est une sorte d'éclectisme postmoderne. Et on voit... Et autre chose sur ces sites, dont non seulement ils conseillent les parents à déscolariser leurs enfants, mais ils les conseillent aussi dans le discours. C'est-à-dire que, voilà... ce que vous devez dire, les raisons pour lesquelles vous déscolarisez vos enfants et ce que vous ne devez pas dire. Donc on peut dire que c'est une forme de propagande. Donc le quatrième point que je voudrais développer avec vous et qui me paraît un des plus importants pour cet atelier, c'est une singularité de parcours et la complexité des facteurs en jeu. Donc, dès que l'on regarde un peu plus près sur le terrain, ce qui frappe, c'est la diversité et la singularité des histoires et des parcours dans leur rapport à l'islam, à l'école, à leur projet de vie. Donc, je vais m'arrêter sur quelques exemples tirés de l'ouvrage de Nathalie Capco, qui est sociologue. Et son ouvrage, c'est « L'islam, un recours pour les jeunes », c'est Presse de Sciences Po 2007, qui montre bien les diverses manières dont les individus mobilisent l'islam. Je vais commencer par Ahmed, qui a eu une scolarité chaotique, qui se déroule dans un climat extrêmement mouvementé. Son vécu scolaire et familial le conduit à penser que les populations d'origine maghrébine occupent un statut de dominé dans la société française. Donc, je le cite, « En classe, ils nous mettaient dans des coins entre nous, ils ne nous géraient pas. Pourquoi la France nous a détournés de l'école? Parce que si on était entré dans les écoles, qui sera en tôle? Qui sera au gouvernement? Ce seraient les enfants des immigrés algériens qui seraient au gouvernement. La France nous piège volontairement. » La religiosité d'Ahmed est une quête de nouvelles origines. En lisant des ouvrages savants sur l'islam et en participant aux conférences de leaders religieux, il s'inscrit dans une lignée croyante prestigieuse. À l'opposé de l'image négative des maghrébins qu'il a intériorisé à l'école. Ahmed cherche à se requalifier sur le plan intellectuel et à relire ses origines à la lumière de l'islam. Donc le deuxième exemple, Hassan qui réussit sa scolarité et qui intègre un DEA à l'IEP de Lyon. Donc la scolarisation en troisième cycle d'Hassan signe la fin de l'illusion scolaire et les prémices de l'identification religieuse. Au cours de l'année de DEA, Hassan découvre la concurrence entre élèves et ses faibles chances d'obtenir une allocation de recherche. Étant issu de familles populaires d'origine immigrée, il n'a ni les codes, ni les réseaux universitaires. Hassan vient de la banlieue de Grenoble et ne connaît personne à Lyon. C'est à ce moment-là qu'il découvre un racisme institutionnel, selon ses mots. Quand Hassan réussit à gravir les échelons de la hiérarchie scolaire, la mémoire de la colonisation et l'expérience du racisme étaient absentes de ses jugements scolaires. Elles ressurgissent lorsque les perspectives d'ascension sociale s'amenuisent. Pour Hassan et d'autres jeunes, l'identification religieuse est une voie par laquelle se faire entendre. Enfin s'inscrire dans une communauté musulmane de plus en plus engagée dans le débat public, c'est se projeter dans une réussite individuelle à laquelle Hassan aspire depuis son enfance. Il se dit victime de l'ostracisme de l'institution. Hassan mobilise donc la référence islamique pour accéder à un statut social que lui a fait entrevoir l'école. Nous allons finir avec le dernier exemple, Fouzia. Fouzia a une scolarité brillante, filière scientifique. Après le bac, elle est étudiante en IUT, résidente dans une chambre d'étudiante et assidue dans sa pratique religieuse. Elle fait la prière, porte le foulard. La pratique religieuse est pour elle une forme d'autocontrôle. Tout en étant partie du foyer, elle garde le lien avec sa famille. Elle reste loyale à sa famille. Elle mobilise la référence islamique pour donner des garanties de fidélité à sa famille dans sa situation d'éloignement. À son retour dans sa famille, avec une maîtrise d'économie, Fouzia devient enseignante dans un lycée et est retournée vivre chez ses parents. Elle ne fait plus quotidiennement la prière et se détache petit à petit de la pratique religieuse. Ces trois exemples montrent bien comment ces jeunes sont des acteurs conscients avec des stratégies d'instrumentalisation et d'adaptation de l'islam à leurs problématiques sociales et personnelles. Comme l'enseigne la sociologie des acteurs, les individus et les familles se comportent en stratèges et les familles musulmanes n'échappent pas à la règle. Leur origine sociale, leurs projets, les ressources, réseaux sociaux, capital culturel, etc., dont ils disposent, sont autant de variables qui influent sur leur stratégie. Donc le cinquième point, les différentes dimensions de l'islam. Donc Annie Fachérefi, qui a été médiatrice en 1994 sur la question des foulards. Annie Fachérefi, donc, et elle a été aussi au Haut Conseil à l'intégration. A été membre du Haut Conseil à l'intégration. Anifa Chérifi rappelle dans son article « Islam et intégration » paru dans la Revue européenne des migrations internationales en 2001 que les différentes dimensions de l'islam qui apparaissent au sein des établissements scolaires. Donc l'aspect proprement religieux, l'aspect identitaire lié au patrimoine culturel de populations immigrées originaires d'Afrique du Nord, de Turquie, d'Afrique subsaharienne, etc. Ces populations se distinguent par une grande diversité de traditions, de langues et de cultures. Et elles distinguent, la dernière distinction porte sur l'aspect idéologique. Cette triple distinction me semble très éclairante sur la question de l'islam et de l'école. Sur le rapport entre l'islam et l'intégration à l'école, elle conduit à distinguer trois dimensions, l'appartenance confessionnelle, l'expression identitaire et la volonté idéologique. Leur confusion brouille la perception de l'islam dans la société et en donne souvent une image négative. Et justement, en rapport avec les revendications religieuses faites à l'école, la viande halal, le refus de certains enseignements, le refus de la mixité. Ce serait intéressant de, justement, voir, avec cette distinction, comment trier ces refus. On les placerait où, finalement ? D'où la complexité de cette question. Est-ce que ces refus sont ont un aspect proprement religieux, un aspect identitaire ou un aspect idéologique ? Donc, je vais essayer d'aller vite. Hein. Donc, je vais bientôt finir. Donc, le sixième point, je reviens un peu sur la confiance en l'école. Donc, on peut faire l'hypothèse que l'intégration par l'école reste une perspective dominante et même une attente forte hein, des familles. Mais j'ai aussi signalé au-dessus que ce rapport de confiance pouvait être mal compris par les enseignants, que certains pourraient être tentés d'y voir une démission, et ce malentendu pourrait entamer cette confiance. Et donc, l'une des sources du malentendu école-famille, donc je vais consacrer un petit point à cela, donc l'une des conclusions de ma recherche sur les relations parents-famille dans le cadre de la classe artistique de Montpellier, donc pour expliquer les malentendus qui marquent cette relation, j'ai émis l'hypothèse que bien souvent parents et enseignants ne sont pas tout à fait dans le même modèle de communication. Les parents se plaignent souvent de ne pas être entendus, mais les enseignants, en toute bonne foi, s'étonnent de ces plaintes et font état de tout le mal qu'ils se donnent pour communiquer avec les familles, hein, donc par le cahier suivi, par les informations distribuées, voire les démarches téléphoniques. Mon hypothèse pour expliquer ce malentendu est que les enseignants sont plutôt dans un modèle rationnel de communication. Communiquer, c'est expliquer. Mais les parents, plutôt dans un modèle affectif et en demande de reconnaissance. Un modèle de communication dans lequel ils se sentent reconnus comme parents. Ce malentendu n'a pas de rapport direct, immédiat avec la question de la religion, mais il faudrait y voir de plus près. Donc l'échec scolaire, souvent de l'enfant, renvoie les parents à leurs propres ressentis. Et je vais finir, le septième et dernier point, c'est ressenti et objectivité. Donc, j'en viens rapidement donc à mon dernier point. On pense souvent que cette population exagère en parlant de stigmatisation et de discrimination systématique. Ils exagèrent quand ils se représentent comme des victimes scolaires. Et effectivement, quelle foi accorder au ressenti ? On lui a souvent opposé le biais de la subjectivité. Quelle objectivité accorder à ce que ressentent les acteurs ? Pourtant, dans le domaine où se situe notre recherche, des enquêtes récentes d'envergure confortent le point de vue de la sociologie des acteurs. Ainsi, l'enquête Théo, dont les derniers résultats ont largement été médiatisés depuis début 2016, menée conjointement par l'INED et l'INSEE et visant à identifier l'impact des origines sur les processus d'intégration et de discrimination, montre la forte convergence du ressenti des acteurs et des mesures objectives. Donc, en quelques mots, l'enquête Théo vise à identifier l'impact des origines sur les conditions de vie et trajectoires sociales, hein, tout en prenant en considération les autres caractéristiques sociodémographiques qui sont le milieu social, le quartier, l'âge, la génération, le sexe et le niveau d'études. Donc, les questions d'intégration et discrimination occupent une place importante dans les débats publics, mais aujourd'hui, la France manque encore de statistiques nationales permettant d'étudier ces phénomènes. L'enquête Théo est conçue donc pour combler ces lacunes. Donc, pour conclure, je rappellerai que mon objectif était d'ouvrir des questions qui me semblent importantes et de les mettre sur la table pour nourrir la réflexion. Et avant de vous donner donc la parole, j'apporterai un élément de conclusion. J'ai vraiment insisté sur la complexité du problème que nous abordons dans cet atelier. Et j'insisterai maintenant sur l'importance de garder à l'esprit donc la conscience de cette complexité. Et une réduction courante, souvent, passe à côté de cette complexité. La première se focalise totalement sur la question religieuse à l'école, au risque que le religieux soit l'arbre qui cache la forêt. Mais cela ne signifie pas qu'il faut minimiser ni la question sociale, ni la question religieuse. Donc, voilà.